La femme puissante est un genre de monstre. Y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Revolution, baby.
Femme puissante, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble, deux mots qui sonnent bizarres à l'oreille. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit encore rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer leur puissance, et c'est ce qu'on va voir tout cet été. Femme puissante, saison 3, avec une soprano du barreau, une réanimatrice qui sauve des vies, une actrice oscarisée, une grande patronne, une candidate à la présidentielle, et ce samedi, c'est une écrivaine sulfureuse qui est notre invitée.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour Catherine Millet.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez
vous.
Merci. Alors je dis Catherine Millet parce que toute ma vie je pensais que vous vous appeliez Catherine Millet, mais en fait en bossant sur le sujet, j'ai vu que vous vouliez qu'on prononce Millet.
Je veux rien du tout. Je prononce moi Millet parce que mon père disait Millet, mais si on m'appelle Catherine Millet, je réponds quand même.
D'accord. Très bien. C'est pas un péché, donc j'ai pas commis un péché. Alors on est chez vous là, c'est une jolie petite maison au fond d'une impasse, dans le 12e arrondissement de Paris. Alors je vois qu'il y a beaucoup de livres, de livres d'art notamment. Ouais. C'est normal, c'est une maison d'un télo. D'ailleurs il y a votre mari qui est là, bonjour Jacques-Henrique.
Bonjour. Bonjour.
Vous assistez à l'interview ?
Pourquoi pas, oui. Si, oui, oui, bien sûr.
Vous la surveillez un peu, en fait.
Il faut, parce que des fois, ça arrive comme ça qu'elle dise des choses qu'elle ne devrait pas dire. Et après, la pauvre, elle traîne ça pendant des années. Donc, je vais faire très attention.
Donc, vous serez là pour lui taper sur les doigts, ou ailleurs, d'ailleurs, ou ailleurs, ça ne me regarde pas.
En un livre, un seul, elle a tout explosé. C'était il y a 20 ans, et elle racontait en détail ses relations sexuelles intenses avec des hommes, beaucoup d'hommes, parfois plusieurs hommes à la fois. La vie sexuelle de Catherine M. fut un choc. On n'avait jamais lu ça de la plume d'une femme. Scandale, souffre, admiration, le succès fut immense. 3 millions de livres vendus, traduits en 40 langues, elle est étudiée dans les universités et devient la Madame Sexe de la télé. Mais puissante, elle l'est aussi pour ce qu'elle a apporté à l'art contemporain. Spécialiste reconnue, elle cofonde Art Press dans les années 70, qui devient la référence, le Graal pour les artistes. Plus récemment, ce sont ses sorties anti-MeToo qui lui ont valu critiques et polémiques. Elle assume, provocatrice un peu, sincère aussi dans ses réponses comme dans ses raisonnements. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde, Catherine Millet est notre invitée. Catherine Millet, à quel moment de votre vie vous êtes-vous sentie puissante ? Celle-là, on ne l'avait jamais faite encore.
Je pense jamais. Je ne pense pas. Des fois, je pense que je peux faire des choses. Et même, je suis peut-être attachée, je ne sais pas si c'est le mot pouvoir qui est juste, mais enfin, à certaines formes de pouvoir. Mais me sentir puissante comme ça... Non, j'ai pas le souvenir de l'avoir jamais désiré. J'ai l'impression d'être toujours tellement noyée dans plein de problèmes et plein de difficultés et tout ça que je me sens pas si puissante que ça. Voilà.
Mais tout de même, quand il y a 20 ans, vous publiez la vie sexuelle de Catherine M., le livre est un choc. Pour beaucoup de femmes, ce livre a été important. Mettre des mots sur la sexualité féminine de la manière la plus précise possible. Est-ce qu'en écrivant ce livre, en le publiant, vous avez conscience à ce moment-là, de faire un acte puissant ?
Non, 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 bien sûr que non. L'idée, elle était née de manière très spontanée, très, très naturelle. Dans cette maison dans laquelle vous vous trouvez, au début, on s'est installé, on était entouré d'amis, et un de ses amis, c'était Denis Roche, qui était le directeur de la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil, outre qu'il c'était un grand écrivain, un grand poète. Et en prenant un jour un café, voilà, dans l'appartement d'à côté, il nous a posé la question, à Jacques et à moi, si on connaissait des femmes qui seraient intéressées à écrire sur leur sexualité. Et c'est Jacques qui a répondu pour moi, d'ailleurs, en disant « Mais je suis sûre qu'elle, elle aurait très envie de faire ça. » Et Denis s'est tourné vers moi, il m'a dit « Vraiment ?» Et j'ai dit à Denis, ouais, je veux bien essayer. Et je sais pas, 8 jours après, je recevais le contrat, quoi.
Et conclusion, le livre a été vendu à près de 3 millions d'exemplaires, 40 traductions dans le monde. Vous basculez dans une autre sphère. Vous avez conscience, si le mot de puissance vous gêne, en tout cas que vous avez été influente à ce moment-là.
Oui, l'effet que ça a pu produire, je vais employer une expression très à la mode en ce moment, c'est que ça a libéré des paroles. Mon expérience, c'est que grâce à ces traductions, je me suis baladée dans le monde entier. J'ai fait au sens propre le tour du monde avec ce livre. Bon, et ce qui était absolument formidable, c'était je parlais, je faisais des rencontres en public comme ça, et puis après, il y avait un échange avec ce public, et je voyais des gens se lever et tout d'un coup me raconter leur vie sexuelle comme ça devant tout le monde, qui sentaient que auprès de moi, ils pouvaient dire des choses qu'ils avaient peut-être jamais dites sur leur sexualité, qui parfois étaient à l'inverse de la mienne. Donc c'était assez touchant. Je ne sais pas si ça me donnait du pouvoir.
Ouais. C'est pas tant le pouvoir et la puissance, c'est pas exactement la même chose.
Ouais.
La puissance, c'est le sentiment d'être à sa place.
Alors, certes, vous avez raison. Je pense que j'ai eu le sentiment, en effet, à ce moment-là, d'accomplir ou d'avoir accompli quelque chose que je portais en moi, qui était d'écrire, tout simplement. J'ai eu l'impression que je me glissais dans une peau qui m'attendait depuis longtemps, et donc ça me posait pas de problème. J'étais, j'étais assez à l'aise, parce que tout d'un coup, j'étais là où j'avais rêvé être quand j'étais petite fille.
Vous êtes devenue Madame Sexe à la télé pendant un temps.
Ouais. Après avoir été Madame Art Contemporain en France. Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
Ça, c'est une forme de puissance, non? Madame Art Contemporain puis Madame Sexe.
Pour moi, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais puissante ou pas. Pour moi, ce qui compte, c'est la liberté.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Parce que pour moi et à mes yeux, vous êtes une femme puissante, Catherine Millet, parce que vous êtes libre. J'ai rarement vu quelqu'un qui se souciait aussi peu de qu'en dira-t-on, de ce qu'on allait penser de lui, ce qu'on allait dire de lui. On a l'impression que vous dites les choses, que ce soit sur le sexe, que ce soit sur l'art contemporain ou sur le féminisme, on en parlera évidemment, sans vous soucier de ce qu'on va dire de vous, sans vous soucier si vous provoquez ou pas un bad buzz. Parfois, vous le faites, et que vous vous en fichez, au fond. Que vous,
non,
votre liberté vous tient plus à cœur et à corps.
Je ne dirais pas exactement que je m'en fiche, parce que si on prend la parole, c'est qu'on attend bien une réaction. Et lorsqu'on dit certaines choses, on sait bien qu'on va soulever des contradictions. Disons que je l'assume.
Où vous avez appris cette liberté?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
J'ai cherché l'explication... Bien sûr. Par exemple, quand j'ai écrit Une enfance de rêve, j'ai cherché l'explication dans l'enfance. J'étais élevée au sein d'une famille qui était sans contrainte morale, par exemple. Je raconte que mes parents avaient, par exemple, leur vie sexuelle chacun de leur côté. Que moi, petite fille, ça me faisait souffrir, mais qu'en même temps, ça me montrait qu'une certaine liberté était possible. Alors, ça a pu jouer. Et puis, il y a peut-être autre chose, comme ça. Bon, ça, c'est après avoir écrit ce livre que je peux le dire. J'étais une petite fille très croyante. Et sans doute aussi très prétentieuse, parce que j'étais persuadée que j'aimais Dieu tellement qu'il me protégeait. Je crois me souvenir que j'étais une grande menteuse, par exemple. Donc ça, quand même, au catéchisme, on m'avait expliqué que c'était pas bien. Mais j'avais une complicité avec Dieu qui était telle. Je vais passer pour une grande, grande mégalomane après avoir dit ça. Mais ça m'a passé, ce rapport à Dieu. Et du coup, ça m'autorisait à faire un peu ce que j'avais envie de faire, quoi. Voilà.
Vous vous êtes faite toute seule, vos parents venaient d'un milieu modeste, vous avez quitté tôt Bois-Colombes pour Paris, vous ne connaissiez personne ou presque, vous êtes débrouillée pour travailler dans la revue d'art dirigée par Aragon, Les Lettres Françaises, ensuite vous êtes devenue une grande critique d'art. Vous étiez ambitieuse?
Non, justement, j'étais pas ambitieuse, je voulais vivre... Vous savez, j'ai démarré dans la vie en compagnie de Daniel Templon, qui est aujourd'hui un grand marchand d'art, et d'ailleurs je suis en train d'écrire sur cette période, sur...
Les années 70?
Un peu les années 70, mais surtout les années de démarrage dans la vie. Comment on se débrouille quand on a envie d'avoir une autre vie que celle des parents, dans une banlieue petite bourgeoise. Bon, mais mon ambition, c'était de fréquenter les artistes, de fréquenter des intellectuels, des écrivains. Et puis, je crois qu'après, j'ai pris la vie comme elle venait, quoi.
Peut-être l'ambition, c'était aussi de vivre une vie plus intense, plus intéressante, peut-être plus enrichissante que celle
ça,
de vos parents.
Oui, bien sûr, bah, c'est une petite ambition, il faut dire. Hein, c'était pas,
c'est pas mal comme ambition.
Oui, bon, oui.
Diriez-vous, comme Christiane Taubira, qu'une femme puissante, c'est une femme qui n'a plus peur, qui a réglé son compte avec la peur? Vous êtes d'accord avec ça? Et vous avez réglé certains comptes avec certaines peurs?
Non. Non, non, je pense pas. Je pense que quand on écrit, quand on peint, qu'on fait des choses, on le fait parce qu'on est habité par une peur.
Vous rêviez d'être célèbre?
Ouais.
Ah.
Ça, oui.
Bon, ça, c'est... Comme Carla Bruni, Carla Bruni-Sarkozy est la seule femme qui assume de dire qu'elle voulait être célèbre.
Ah oui, oui, bah oui. Non, mais moi, je l'ai raconté justement dans le livre sur l'enfance. J'avais, à un moment donné, bref, hein, ça n'a pas duré très longtemps, mais mon idole, c'était Françoise Sagan.
Et Sagan, c'est l'écriture, c'est la liberté.
Oui, c'est ça.
Et c'est la célébrité.
Et puis, c'était bon.
Elle
donnait l'image quand même, oui, d'une femme libre. Vous savez, c'était l'image de Françoise Sagan, là, à fond la caisse dans sa petite voiture de sport, quoi. Oui.
Ça,
moi,
ça
je
vous,
sais pas ça, conduire
ça vous faisait
en plus.
Rêver.
Ça, ça, oui. Vous faisait et rêver. Ça me faisait rêver, oui.
Quel objet incarne pour vous la puissance des femmes?
Ah, des femmes, j'en sais rien. Moi, mon objet, c'est mon ordinateur, je pense, parce que je crois au pouvoir de l'écrit.
Voilà. C'est quoi le pouvoir de l'écrit? C'est ce qui reste?
Ouais, c'est ce qui reste, c'est ce qui vous inscrit dans le temps. Je dis ça même en tant que journaliste, paradoxalement, mais je pense toujours que lorsque dans Art Press on défend un artiste, même s'il n'est pas très connu, très célèbre au moment où on en parle, on l'inscrit quand même d'une certaine façon dans l'histoire. Et comme maintenant la revue à presque un demi-siècle, on voit évidemment aujourd'hui l'intérêt naître parfois pour des artistes qui avaient été négligés ces dernières décennies, mais qui étaient défendus très tôt par Art Press. Donc je me dis, bah, on a peut-être un peu contribué comme ça au travail qui était à faire sur cet artiste.
C'est bien que vous parlez d'Art Press, parce que évidemment, votre puissance, c'est votre liberté sexuelle, et on va en parler largement. Mais il y a l'art aussi, peut-être
oui.
Que les gens le savent moins. Vous avez donc fondé Art Press en 1972, magazine d'art qui devient un peu l'arbitre des élégances. Les artistes se damnaient pour avoir une mention dans Art Press. C'est vrai. Vous l'avez cofondé avec Daniel Templon, dont vous parliez, qui était votre compagnon à l'époque. Daniel Templon qui dit « Le seul militantisme de Catherine, c'est l'art. »
Ouais, c'est l'art en tant que ça sous-entend aussi la liberté d'expression, je crois. Voilà, ça c'est très important pour nous. Très souvent, on a fait des éditos pour dénoncer des censures qui avant venaient plutôt de la droite, aujourd'hui viennent plutôt d'une certaine gauche. C'est ça mon vrai militantisme, je crois. C'est plutôt la liberté d'expression.
Sous toutes ses formes, artistiques, distinguer,
oui, bien sûr,
distinguer l'homme de l'œuvre.
Bien sûr.
Sur Céline, sur Gauguin, sur les autres,
vous distinguerez
toujours les œuvres
bien sûr,
de ce qu'ont été les hommes.
Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, on parlait de liberté. À propos d'Art Press, ce que je pourrais ajouter, c'est que je dis souvent, Art Press, c'est la revue la plus libre du monde. Alors, elle vit chichement, hein, inutile de vous dire. Bon, les gens qui y travaillent, ils acceptent d'avoir des salaires qui sont très bas. Les collaborateurs, en ce moment, à cause de la situation qu'on connaît, sont pas payés depuis un certain temps, tout ça. Bon, mais ils peuvent s'exprimer très librement. Mais ils peuvent dire, sur les institutions, sur le marché de l'art, sur des artistes qu'ils trouvent pas très bons, etc., ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense...
C'est une fierté pour vous.
Ah, c'est ma grande fierté. Oui, ça, c'est sûr.
Quel aura été votre apport, Catherine Millet, à l'art en général, à l'art contemporain en particulier? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous plus tard?
Ah, par rapport à l'art Ben, là aussi, que j'ai eu la liberté de m'intéresser à des artistes très différents les uns des autres. J'ai commencé ma carrière, vous savez, je parlais d'art conceptuel. Là, c'était un petit peu aride. Et puis en même temps, j'ai toujours gardé des attaches avec des peintres qui étaient des peintres vraiment très traditionnels, etc. Bon, et je pense que ça c'est assez important. Sur le moment, je pense que quand j'ai commencé à publier, j'étais pas toute seule à l'époque. C'est pas pour chercher des excuses, mais je devais être assez dogmatique comme ça. Bon, et puis j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. Et en tout cas, ce que ça m'a permis, c'est que quand le moment est venu de réfléchir d'une manière un peu plus large ou de, disons, de faire aller et venir son regard sur d'autres choses que ce qui avait été les choses pour lesquelles justement j'avais milité au tout début, Bon, j'étais apte à le faire parce que j'avais toujours gardé quand même une certaine curiosité pour des formes, disons, un petit peu plus traditionnelles. Bon, là-dessus, vous savez, est arrivé justement ce qu'on a appelé le postmodernisme, le retour à la peinture, etc. Et là, j'étais capable d'accueillir ces nouvelles vagues. D'ailleurs, c'est une chose qui m'a intéressée dans certains livres que j'ai fait sur l'art, c'est la coexistence à notre époque de formes d'art très contradictoires, ce qui ne s'était pas vu au cours de l'histoire. Vous avez tel style correspond à telle époque de l'histoire. Et quelque chose qui est assez nouveau pour notre époque, c'est que vous allez avoir, l'art conceptuel, c'était un petit télégramme épinglé au mur, et puis à côté de ça, des grands tableaux abstraits ou figuratifs. Et comment tout ça peut s'articuler et exprimer de la même façon une époque, c'est ça qui m'intéresse en fait.
À chaque femme puissante, je demande une chanson qui incarne pour elle la puissance des femmes. Vous avez choisi quoi ?
J'ai choisi Camilla Jubran, bah, parce qu'en fait, le thème, c'était donc femme puissante. Et c'est la première idée qui m'est venue en tête. On a une collaboratrice qui est aussi une amie, qui s'appelle Jacqueline Coe, qui a fait beaucoup de films sur des chanteuses ou des musiciennes arabes. Bon. Et il se trouve que, grâce à Jacqueline d'ailleurs, Camilla Jubran avait été invitée par nous quand on avait fait l'anniversaire d'Art Press à la BNF. Donc voilà, c'est à elle que j'ai pensé.
Léa Salamé.
Alors, il y a aussi des statuettes africaines.
Oui.
Sur France Inter.
C'est Jacques qui a acheté beaucoup de statuettes comme ça, africaines.
Et on retrouve Catherine Millet sur Inter.
Et mon petit grain de sel à moi, dans cette collection, c'est la tête qu'on voit au milieu, qui est un artiste d'art brut, que moi j'ai acheté à un ami, Christian Berst, qui est le marchand qui a vraiment mis en place, je crois, le marché de l'art brut aujourd'hui dans le monde de l'art, et je trouvais que c'était bien cette tête au milieu.
Donc de l'art partout et du sexe quand même, hein, quelques photos de nus, parce
ouais,
que ce serait dommage de ne pas...
C'est de l'art en même temps, parce qu'il y a une photo d'Éric Rondepierre, il y en a une autre d'Alain Fléchère, ce sont des amis artistes en effet. Et...
En tout cas c'est une belle manière artistique de parler d'une levrette.
C'est vous qui avez dit le mot, c'est pas moi.
C'est moi.
Voilà, c'était Rarabi de Camilla Jubran. Catherine Millet, on est donc en 2001. Il y a 20 ans, il y a une éternité, et des millions de Français vous découvrent sur le plateau de Bouillon de Culture, décrire avec une précision chirurgicale vos ébats, votre vie sexuelle, votre plaisir, devant un Bernard Pivot enthousiaste.
Ce qui est stupéfiant dans votre livre, c'est que contrairement à beaucoup de ce qu'on appelle la littérature érotique, il n'y a pas de métaphore. C'est-à-dire que dans les littératures asiatiques, il y a toujours la vague qui surmet, la marée qui arrive, etc., qui emporte, etc. Vous, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, je crois, dans ce qui est de la description de l'acte. De temps en temps, j'ai des métaphores quand je parle de mes sensations. Parce que là, pour parler.
Non, ce qui est tout à fait là, c'est que c'est un récit qui est minutieux, mais écrit avec une sorte de sérénité, de placidité, presque clinique. Et ça, je veux dire, moi, j'ai jamais rien lu de tel. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que ce livre restera un classique.
Oui. En fait, il a beaucoup fait pour le succès de ce livre, parce que ça a été le premier écho public donné à ce livre.
La vie sexuelle de Catherine M. va faire autant scandale qu'il va susciter l'admiration. Vous vouliez dire les choses de la manière la plus précise, la plus plate aussi, sans émotion.
Oui, comme je le disais déjà à Bernard Pivot, à ce moment-là, je voulais quand même aussi rendre compte, non pas simplement des actes, bien sûr, et là il faut être dans les faits, il faut être factuel, mais aussi un peu des sensations quand même, mais pas des sentiments, voilà.
En fait, vous parvenez, vous, Catherine Millet, à dissocier le plaisir sexuel du sentiment amoureux. Cette dissociation-là n'est pas réservée aux hommes.
Oui, moi à l'époque, quand on faisait ce genre de remarques, je disais, mais ça c'est une invention des hommes pour être sûr que les femmes leur restent fidèles. Bon, mais donc je pense que ça appartenait peut-être à la littérature, donc cette idée de que les hommes feraient plus facilement que les femmes la dissociation entre amour et sexualité. Pour moi, c'était du cliché, parce qu'en fait, je sais pas, moi, des amis femmes de ma génération avaient le même comportement que moi, peut-être pas les mêmes milieux libertins, mais enfin, elles étaient capables de sortir avec un garçon simplement parce qu'elles avaient envie de faire l'amour avec lui, et puis elles savaient bien que ça allait pas aller au-delà.
Donc vous pensez qu'on est égal sur cette question-là?
Je pense qu'on est complètement égal, je l'espère bien d'ailleurs. Mais oui, je pense simplement, peut-être que les femmes n'utilisent pas de la même façon que les hommes leur image sexuelle.
C'est-à-dire
que je pense que les hommes exploitent, ou ont exploité, ça va peut-être changer, mais ont exploité plus que les femmes l'image justement de la puissance sexuelle virile, et que on était un homme parce qu'on était capable d'avoir beaucoup de conquêtes, de séduire facilement. Bon, et que les femmes ont moins valorisé ça.
Mais c'est ce que vous avez fait, c'est en ça que votre livre a été un classique, comme dit Pivot, c'est que vous avez montré que les femmes pouvaient s'enorgueillir aussi d'avoir eu des dizaines ou des centaines de relations sexuelles pures.
Oui, mais s'enorgueillir est peut-être pas tout à fait le mot.
Le fait de l'avoir écrit, c'est que...
Non, mais moi, j'étais pas une conquérante. Je suis une passive, je vais vous dire. Donc, en tant que passive, je partais pas à la chasse. Je me laissais attraper.
Y a-t-il une manière féminine de raconter le sexe qui différerait de la manière dont les hommes parlent du sexe?
Alors, ce que j'ai quand même remarqué en lisant des auteurs femmes qui parlent de la sexualité, c'est qu'elles sont peut-être plus littérales, finalement, que les hommes. Parfois même assez prosaïques. Vous voyez, je crois que c'est dans Histoire d'eau, Pauline Réage, qui je crois, d'ailleurs c'était remarqué, dans
la préface de Pollan.
Elle note que l'amant porte des chaussons ou des mules.
Des pantoufles. Elle note les pantoufles de l'amant.
Bon. Et ça, je pense que dire ça, c'est une remarque de femme. Oui, là, il avait raison, Pollan. Oui.
De dire qu'il n'y a qu'une femme qui peut parler des pantoufles à côté du lit. La réalisatrice Catherine Breillat, qui a filmé Le désir féminin, dit la différence entre la jouissance féminine et la jouissance masculine dans Le bon plaisir sur France Culture.
Il y a le désir qui est peut-être une chose que l'acte sexuel des hommes, oui, est court, je pense qu'il manque beaucoup d'imaginaire. Il y a le désir qui est peut-être une chose formidable chez les hommes comme passage, mais ensuite, la jouissance paraît quelque chose qui met fin à tout finalement. Ça paraît comme une maison qui s'écroule. Je veux dire, ça ne paraît rien, quoi. Ça paraît un petit machin dérisoire et puis il n'y a rien. Alors que les femmes, on dirait qu'elles passent dans quelque chose d'autre, dans une autre sphère. Et ça, c'est très intéressant à voir puisque c'est manifeste et que pourtant, personne ne l'a dit et que ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. On nous enseigne au contraire que le sexe avilit la femme. Moi, je pense que ça la transfigure.
C'est curieux parce que en fait... Quand j'entends là Catherine Breillat parler de la jouissance et puis qu'après il y a rien, bah je dois être un homme. parce que il me semble que une des choses, par exemple, qui peut faire peur dans la sexualité, c'est que le plus grand plaisir vous laisse ensuite démuni, que tout est à recommencer.
Vous êtes triste après le plaisir, vous ? Post-coitum animal triste ?
Triste, non, mais sûrement pas en train de faire travailler mon imaginaire. Mais peut-être que le rapport est tellement singulier de chacun au plaisir que c'est difficile de faire des généralités et de dire les hommes c'est comme ça, les femmes c'est comme ça. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça il y a pas si longtemps, en fait, quand j'ai travaillé sur Dietz Lorenz, l'auteur de Lady Chatterley. J'ai fait un livre sur Lorenz. Et pourquoi ? Parce que, en fait, je trouvais que très tôt, dans le XXe siècle, il avait su très, très bien comprendre ses contemporaines, ce qu'elles attendaient, etc. Bon. Et ce qu'il montre déjà dans ses livres, et puis qui n'a fait que se confirmer, c'est que à un moment donné, quand même, oui, ces mouvements féministes, comme ça, nés à la fin du XIXe, ont donné un pouvoir aux femmes, une indépendance, une émancipation, qui les ont rendues aptes à chercher par elles-mêmes, avec leurs propres moyens, le plaisir. Bon. Et qu'on n'en est pas sorti, en fait, de cette période, parce que ça prend du temps. Hein, Et tout d'un coup, je me suis dit, mais des générations et des générations de femmes se sont succédées, qu'on a marié plus ou moins bien, etc. Mais combien de ces femmes n'ont jamais connu le plaisir? Et ça, pour moi, c'est devenu vertigineux. On ne se préoccupait pas du plaisir des femmes. On s'en fichait. Il fallait qu'elles fassent des enfants.
Et puis c'est tout.
Et puis c'est tout. Et à partir du moment où elles ont réalisé qu'elles pouvaient aussi avoir éprouvé du plaisir et qu'elles ont pris une indépendance pour aller elles-mêmes le chercher, ce plaisir, là, ça, c'était une vraie révolution, je pense. Ouais.
Une révolution avant la vôtre, donc, avant la vie sexuelle de Catherine M.
Bien sûr, quand même, je suis pas la première.
Vous n'êtes pas la première, mais êtes-vous la meilleure ? J'avais toujours pensé que dans le champ de la sexualité, j'étais de manière illusoire, bien sûr, la meilleure, la plus performante. Vous écrivez, ça vous le dites dans Elle, vous écrivez « Je suis la meilleure des suceuses, je baise comme je respire, je rougis en disant ça et en lisant ça ». Ça veut dire quoi, je suis la meilleure ?
Alors, je vais vous dire une chose, comment j'ai travaillé sur ce livre ? J'ai recueilli des témoignages et... Et en fait, c'est parce que, voilà, j'avais des compliments. Donc, ça m'autorisait à écrire cette phrase.
Ça existe, être un bon coup, que ce soit une femme ou un homme ?
Ah oui, sûrement, oui, je pense. Hein. Oui, il y a des gens qui ne sont pas doués pour le plaisir et pour
On n'est pas égaux face à l'amour, face au sexe, face au plaisir ?
Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas.
Et vous, je ne vous demande pas si vous êtes un bon coup.
Bon, je ne sais pas.
Votre livre était accompagné de photos de vous nues, prises par votre mari, Jacques Henrique. La nudité ne vous a jamais gênée ? D'ailleurs, chez vous, il y a des photos de vous nues sur le mur. On
voit
c'est
pas moi qui les ai accrochées, hein, c'est Jacques qui les a accrochées.
D'accord, mais enfin, vous vivez avec vos seins, vos fesses, votre intimité.
Oui, enfin, depuis le temps, je les regarde plus.
Ah oui.
Non. Non, ça m'a jamais gênée. C'est bizarre parce que j'ai connu des... Comment dire, vous savez, des complexes de jeunes femmes.
Vous allez vous dire, vous n'avez pas de complexe, on a l'impression que
si j'en avais, j'en avais. Puis même, je peux vous dire que d'être exposée publiquement comme ça, ça aurait pu faire que les accentuer, par exemple, ces complexes, parce que je me souviens d'avoir reçu, par exemple, par la poste, des photos de moi commentées par des gens, je sais pas qui c'était, très agressifs à mon égard et qui soulignaient mes défauts physiques, par exemple, vous voyez, que j'avais de la cellulite ou que quelqu'un m'avait trouvé aussi. Un profil prognate. Bon, c'était un peu dur. Bon, mais justement, je pense que le fait d'être exposé, y compris dans votre nudité, je peux vous dire que c'est un vaccin. Ça vous guérit du narcissisme.
Ah oui ?
Ah oui, complètement. Moi, ça m'a complètement vaccinée.
Les réactions après la vie sexuelle venaient surtout des hommes ou des femmes ?
Alors, ça se manifestait pas de la même façon. Les hommes m'écrivaient. J'ai reçu évidemment énormément de correspondances. 90%, 95% des hommes. Bon.
Qui vous demandaient d'avoir des relations sexuelles avec
Alors, il y avait de tout. Il y avait celui qui vous racontait votre vie, sa vie de libertinage, sa vie au contraire qui rêvait d'être un libertin qui n'y arrivait pas. Il y avait ceux qui me faisaient des propositions.
Vous répondiez ?
Au début, j'ai toujours répondu. Ouais. J'ai toujours répondu parce que c'était un tel cadeau, ces gens qui me faisaient, ce succès énorme. Je trouvais que la moindre des choses, c'était quand même de leur répondre. Après, j'ai un peu moins répondu. Enfin,
si, et les si... femmes ?
Et les femmes, elles venaient me parler. Pour me dire bravo, pour me dire « Ah, je trouve que ce que vous avez fait, c'est très très bien. Vous savez, moi, mon ami m'a proposé ça, j'hésite un peu, mais voilà, j'ai lu votre livre, alors peut-être que je vais le faire quand même. »
C'est fini le libertinage ou vous continuez ? Vous avez 73 ans, j'ose dire l'âge.
Oui, non. Alors, c'est fini pour plusieurs raisons, je crois. Après tout, je pourrais continuer. C'est drôle parce qu'en fait, dès qu'il y a ma photo quelque part dans un magazine, je reçois un ou deux courriers comme ça, très gentils avec moi. Bon, non, mais bon, je crois que la première raison pour laquelle ça pouvait pas se poursuivre, j'ai souvent dit ça, c'est que j'aurais eu l'impression de faire l'actrice dans une adaptation au cinéma de La vie sexuelle de Catherine M. Et donc, vous pouvez plus être, vous immerger dedans. Voilà, je crois que ça, c'est la raison principale. Après, il y a le vieillissement. Après, il y a le fait que je crois que j'ai de plus en plus travaillé, en fait.
Vous dites espérer pouvoir écrire une vie sexuelle de Catherine M. à 80 ans. La vie sexuelle...
ça approche.
La vie sexuelle passée 60, 70 ans, c'est le tabou ultime.
Oui, c'est vrai qu'il y a très peu de choses sur la sexualité des vieillards. Ça serait une chose à traiter. Bon, bah, mais je trouve que là, j'ai dit 80 ans, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Peut-être que je vais reculer l'échéance quand même.
Que vous allez écrire La vie sexuelle de Catherine
à 80 à 15 ans, je ne sais pas.
Parce que vous n'avez pas envie de l'écrire, en fait, le roman de la vieillesse face au désir.
Oh, je pense que si j'en ai la capacité, si je suis toujours en vie, j'aimerais bien le faire, ce livre, ça c'est sûr.
Le désir existe encore après 65, 70 ans.
Oui.
Vous faites encore l'amour ?
Ouais, je le fais pas de la même façon.
Laure Adler, qui a écrit un livre sur la vieillesse, prône le slow sex après 70 ans. Le slow sex, ce serait entre guillemets le contraire d'un film porno contemporain.
Bien sûr.
C'est quoi la différence ?
On est évidemment plus dans la performance où on n'a plus à se prouver quoi que ce soit l'un à l'autre comme ça. C'est plus doux. Les corps vieillissent.
Ils sont moins beaux, les corps vieillis.
Ah oui, bien sûr.
Donc Yann Moix a raison de dire qu'un corps de femme de 50 ans n'est plus désirable.
Ah ben c'est son problème à lui, parce que moi je connais des hommes qui aiment les femmes âgées. D'ailleurs, c'est drôle que vous posiez cette question, parce que en fait, j'évoquais à l'instant, vous savez, des lettres qui me parviennent encore aujourd'hui, et une des dernières lettres que j'ai reçues, c'était ça. C'était un homme, je ne sais pas quel âge il a, qui me disait, mais vous savez, j'ai toujours eu beaucoup de goût pour les femmes d'un certain âge.
C'était poli.
Et bien sûr qu'on n'a plus le corps qu'on avait quand on avait 25 ans. Mais aussi, on connaît des choses du corps de l'autre. Enfin, parce que moi, j'ai une vie sexuelle, mais elle est en couple aujourd'hui. Et donc, oui, c'est différent.
Alors, écoutez votre mari, puisque l'autre, c'est votre mari, l'homme de votre vie, depuis longtemps maintenant. L'écrivain Jacques Henric, parlez de vous.
Quand j'ai connu Catherine, moi, elle était plus jeune que moi. Moi, j'avais 30 ans, elle avait une vingtaine d'années. Et j'étais tombé amoureux de Catherine, et on m'avait quand même appris dans le petit milieu qu'elle avait des mœurs très libres. Donc dès le début, même si on ne me l'avait pas dit, elle m'a raconté les choses qu'elle faisait. Catherine était quelque chose qui pouvait alimenter mes fantasmes et donc ma littérature. Donc j'avais devant moi, face à moi, avec moi, à côté de moi, une femme qui, dans le fond, était déjà l'incarnation de ce qu'allaient être mes personnages. Et si en effet on lit les romans que j'ai publiés, on retrouve en effet d'ailleurs des scènes qui sont raconté par Catherine, sauf qu'elle me racontait
pas. Donc jamais
pas
de jalousie.
Écoutez, qui peut dire ça ? Vous savez, la jalousie, c'est le ciment social. Je veux dire, s'il n'y avait pas de jalousie, il n'y aurait pas Proust, il n'y aurait pas Joyce, il n'y aurait pas... Bon.
Alors, il y a un envers à cette vie de libertine, c'est que votre mari a lui aussi eu des aventures de son côté et que ça a provoqué chez vous un immense sentiment de jalousie que vous avez raconté dans un livre, Jour de souffrance. Catherine Millet libre, libertine, ça on visualise. Catherine Millet jalouse, on vous attendait moins dans ce registre. Au fond, vous êtes une femme comme les autres.
J'espère bien. Oui, en fait, ce livre sur la jalousie, j'ai voulu l'écrire dès les premiers jours qui ont suivi le succès de La vie sexuelle de Catherine M. Dans la mesure où je présentais ce livre, La vie sexuelle, comme la vérité de ce qui était ma vie sexuelle, je pensais que j'avais le devoir, vis-à-vis des lecteurs, d'aller jusqu'au bout de cette vérité, et de leur dire, vous savez, en effet, j'ai eu ces pratiques, mais ça n'a pas empêché que j'ai éprouvé un sentiment de jalousie très très fort qui m'a complètement...
Vrillé. Vous l'avez fliqué, vous avez fouillé dans ses affaires, dans son courrier, vous êtes traîné par terre parce qu'il vous trompait. Ouais. Vous, vous aviez le droit de le tromper, mais
non,
pas
non,
lui.
Non, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que puisque j'en avais le droit, il en avait le droit aussi, et que je ne pouvais pas le lui interdire, et que du coup, ça me faisait souffrir.
Sur la jalousie, écoutez, Gisèle Halimi qui parle de la jalousie chez Simone de Beauvoir dans l'émission Du côté de chez Fred.
De découvrir que Simone de Beauvoir était jalouse, je vais le dire comme ça, tant pis, ça m'a fait un plaisir fou.
Orpheline,
ça m'a fait un plaisir fou parce que je me dis, mais elle peut être jalouse, donc, alors que moi je m'interdisais au nom de la liberté de l'autre, de la raison, de l'intelligence, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait au fond deux démarches qui ne coïncidaient pas toujours et quelquefois étaient parallèles et qu'on pouvait avoir très mal, mais qu'on devait supporter, surmonter ça, non pas seulement au nom de l'intelligence seulement, mais au nom d'une chose plus importante qui était de rester ensemble.
Ah, je suis complètement d'accord.
Oui, j'étais sûre que ça vous plairait.
Ah oui, c'est exactement ce que je pense. Et en fait, souvent, la souffrance, elle vient pas simplement du sentiment de jalousie lui-même, mais de vous trouver en contradiction avec votre propre philosophie. C'est-à-dire que vous demandez la liberté, donc il faut accorder la liberté à l'autre, et il faut l'assumer, ça aussi.
Je passe pour une femme qui n'a pas besoin de protection. C'est l'un de mes regrets, dites-vous. On peut être une femme de tête, dans tous les sens du mot d'ailleurs, intellectuellement ou en tant que chef, et avoir besoin d'être protégée comme une petite fille.
Oui, c'est vrai, mais je pense que on a tous un petit coin au fond de nous, quel que soit le rôle social qu'on a par ailleurs, où on garde des petites faiblesses qui viennent de l'enfance. Il faut les accepter. Ceci dit, j'ai choisi de vivre avec un homme qui n'est pas du tout comme ça. Alors, il peut exercer une forme de protection, mais du genre à me prendre par les épaules et à me dire, ma pauvre petite chérie, je comprends que à quel point tu souffres. Ça, c'est pas son genre, non. Donc, ça, pour ça, je suis frustrée complètement.
Ça, c'est
loupé. Oui.
Si votre livre, Si la vie sexuelle de Catherine M. était sorti aujourd'hui, il aurait eu autant de succès, de retentissement, à votre avis?
Bah, j'aurais peut-être eu un peu plus de féministes contre moi, là. Hein. En ce moment, ça y va fort. C'est drôle, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu tellement d'attaques féministes il y a 20 ans.
Mais non, votre livre était féministe.
Oui, il a souvent été pris comme ça. Et par exemple, quand je suis partie le défendre aux États-Unis, des amis m'ont dit « Oh là là, les mouvements féministes aux États-Unis, tu vas te faire attaquer et tout ». Et en fait, non, très peu. Oui, bien sûr, il y a eu quelques attaques, mais c'était presque rien.
Le féminisme, on va en parler après le zap.
Bonsoir Catherine Millet.
Bonsoir.
Qu'on dit bien Catherine Millet.
Bonsoir Catherine Millet.
Bonsoir.
Mon père disait Millet.
Il disait que vous étiez Mibo Millet.
Voilà, c'est ça, on était Mibo Millet.
D'abord critique d'art. Vous fondez avec Daniel Templon et d'autres la revue Art Press.
Je suis très, très sensible aux espaces.
La vie sexuelle de Catherine.
Oui, un peu masturbatoire.
Vous préférez vous désigner comme écrivain.
Je voulais montrer qu'une femme pouvait parler de sa sexualité comme une femme, justement, et pas comme un homme.
Écoutez, on connaissait les suffragettes qui voulaient voter. Voici venu le temps des harcelettes qui se faire emmerder par des dans les rues.
Bonjour Catherine Millet.
Bonjour.
Collectif de 100 femmes.
Les réactions indignées se multiplient.
Une tribune affirmant son rejet d'un certain féminisme.
La liberté sexuelle que vous défendez dans ce texte, c'est plutôt celle des hommes.
Non.
Vous minimisez les comportements violents.
Je suis désolée, je minimise pas.
Votre monographie sur Yves Klein, l'art contemporain en France chez Flammarion, entre autres.
Beaucoup d'écrits d'hommes sur la sexualité enjolivent le réel, voyez.
Un texte dont les auteurs disent défendre une liberté d'importuner.
Est-ce que vous comprenez qu'en lisant cette tribune, on puisse être choqué même se sentir insulté?
Non, je comprends pas.
Indispensable, selon elle, à la liberté sexuelle.
On va signer un contrat maintenant devant un notaire avant d'aller baiser. Franchement, là, on arrive à un délire.
Allez, venons-en à l'objet du crime, Catherine Millet, la tribune qui a fait couler tant d'encre. Quelques semaines après l'explosion de l'affaire Harvey Weinstein et du mouvement MeToo, la libération de la parole des femmes, vous publiez, avec d'autres femmes, avec 100 femmes, dont Catherine Deneuve, une tribune pour la liberté d'importuner, où vous allez jusqu'à défendre les frotteurs du métro. Mmh. Pour beaucoup de jeunes féministes, vous devenez alors la figure de l'antiféminisme, la défenseuse des hommes et du patriarcat. Marcella Yacoub voit en vous la porte-parole d'une culture machiste en voie de disparition. Vous êtes critiquée violemment. Les féministes se déchirent sur votre cas, Catherine Millet. Ça vous heurte ou ça ne vous fait ni chaud ni froid?
Ça me désole pour elles, parce qu'elles sont en train de passer à côté de quelque chose, à mon avis.
Mais de quoi?
D'un rapport décomplexé à la sexualité. Je pense que avoir peur que un type vous fasse une réflexion salace comme ça dans la rue, ou qu'il ait un geste déplacé, je pense que ça manifeste une peur de la sexualité. Je nie pas qu'on puisse avoir peur.
Mais
qui a dit qu'il fallait pas que ça soit entre deux personnes consentantes?
Vous?
Non, pas du tout. Je veux dire que
vous en libre. Quand on lit cette tribune, on se dit, il s'en fiche du consentement. En fait.
Non, pas du tout. C'est
ça. Quand un homme vous frotte les fesses dans le métro, vous n'avez pas consenti.
Eh ben non, vous lui dites que d'arrêter.
Aujourd'hui, à froid, 4 ans après cette tribune, vous la regrettez un peu?
Pas du tout. Non, pas du tout.
L'apologie des frotteurs dans le métro, c'était. Il n'y avait pas une autre urgence à défendre?
Alors, c'est très intéressant que vous me posiez la question de cette façon-là. Je vais vous dire pourquoi. C'est que ma première intervention sur cette question-là, ça a été un édito dans Art Press. Bon. Cet édito, il était motivé par quelque chose de très précis, qui était la une du Monde, une une du Monde, où quelque chose concernant MeToo ou Balance ton porc, enfin bon, apparaissait sur cette une avec un titre plus gros que l'attentat qui venait d'avoir lieu en Égypte et qui avait fait 80 morts. Et j'ai trouvé que la disproportion entre les deux événements était très choquant, et que ces filles qui se plaignent, alors je parle pas de viol, bien sûr, je parle pas de violence, je parle pas de, on a jamais défendu ça, ça va de soi, et c'était de très mauvaise foi qu'on nous a reproché de soi-disant avoir minimisé ces choses-là. C'est simplement que le fait de mettre un signe égal entre un viol et puis la main baladeuse dans le métro, c'était vraiment disproportionné. Sans compter que tout le rôle des réseaux sociaux sur ce sujet a fait que des hommes qui avaient eu en effet un mot malheureux ou un geste malheureux se retrouvaient avec une vie bousillée. Moi j'en ai connu. J'ai défendu. Pourquoi j'ai été aussi motivée à écrire cette tribune? C'est que j'ai vu près de moi, par exemple, des professeurs dans les écoles des Beaux-Arts, accusés souvent à tort, très vite, comme ça, et tout d'un coup virés de leur école, sur rien. Après, les filles qui les avaient accusées, elles n'allaient même pas porter plainte, elles disparaissaient dans la nature. Donc enfin, vraiment, c'était horrible.
C'est pas la majorité, la plupart des femmes qui ont parlé ont subi. Bien sûr qu'il peut y avoir des excès, mais la plupart des femmes ont subi.
Non, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Toutes ces femmes se sont exprimées.
Toutes ces femmes sont des menteuses?
Non, je ne dis pas ça. Je pense qu'il y a eu une sorte d'hystérie collective sur les réseaux sociaux et que, en fait, elles ont fait un amalgame entre ce qui peut être un crime, à savoir un viol, et ce qui est quelque chose de simplement malheureux, quoi.
Écoutez, en fait, Leïla Slimani, l'écrivaine Leïla Slimani, sur cette tribune.
Mon avis est très différent du sien, mais après, je n'aime pas non plus l'idée de l'avouer aux gémonies, de dire que voilà, cette femme est scandaleuse, elle a sa vision du monde et elle a le droit de penser ça. Je ne pense pas pareil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les femmes, au contraire, c'est de réussir à obtenir le droit de ne plus être importunée. Et que je pense qu'un homme qui fait ça, franchement, je pense que c'est quand même un homme qui s'avilit un peu. Et si c'est ça la vision qu'on a des hommes qui finalement sont là, nous frottent et nous, on l'accepte, moi, je trouve ça triste. Pour eux, je trouve pas seulement ça triste pour moi.
Vous en pensez quoi?
Pas que c'est déjà gentil qu'elle accepte qu'on puisse dire quelque chose avec lequel elle n'est pas d'accord, parce que c'était, on nous disait taisez-vous, c'est-à-dire que ces femmes qui prenaient la parole nous reprochaient, nous, de l'avoir prise et refusaient le débat. Moi, j'ai entendu des choses absolument incroyables qui étaient quasiment de l'ordre de la demande de censure, vous voyez. Bon, donc.
Mais tout de même, on a l'impression que vous êtes capable de tout pour un bon mot, pour provoquer, pour choquer, aller à rebours de l'air du temps. Il y a un truc de Baudelaire chez vous et du plaisir aristocratique de déplaire. On a l'impression que cette tribune sur la liberté d'importuner, c'était ça. Il fallait aller à contre-temps. Tiens, soudainement, il y avait une explosion de la parole des femmes, de celles qui se sentaient victimes ou qui avaient subi quelque chose. Enfin, elles mettaient des mots, elles parlaient, elles exprimaient. Et vous êtes arrivé avec cette tribune-là pour leur dire « Allez, stop, c'est nul ».
Non, pas du tout. D'abord, on n'a pas dit stop, elle pouvait s'exprimer, on pouvait exprimer le contraire, il n'y avait pas de désir de provocation, par exemple. On était assez étonnés de l'écho rencontré, on l'a absolument pas fait par provocation, on l'a fait par conviction, vraiment par conviction. J'entendais Leïla Slimani dire quelque chose avec lequel, alors là, oui, en effet, je suis pas d'accord, elle dit « ces hommes s'avilissent ». Moi, j'ai pas cette perception. Je pense qu'un homme qui se trouve dans la situation de satisfaire son désir par un geste comme ça, c'est un homme qui souffre. Et en fait, je dirais pas ça de tous les importuneurs, si vous voulez.
C'est ce que j'allais vous dire. Vous allez bientôt nous dire qu'un homme qui viole une femme, c'est un homme qui souffre.
Non. Mais pourquoi?
Le frotteur dans le métro.
Pourquoi faire ces raccourcis qui sont pas ce qu'on souhaite exprimer? Non, moi, j'ai, une forme d'empathie, presque de pitié pour un homme qui se trouve dans cette situation de pouvoir assouvir un désir comme ça d'une manière très, très furtive dans le métro. Donc, oui, je crois qu'il faut avoir un petit peu d'empathie avec les hommes quand même aussi. Pas simplement avec les femmes.
Mais au fond, 4 ans après l'explosion de MeToo, il est où le grand puritanisme, la grande censure que vous redoutiez?
Il est partout.
Vous le voyez partout?
Ah oui, partout. Je peux vous dire que dans le monde de l'art, il y a de la demande de censure en permanence, que c'est pas simplement d'ailleurs sur les questions de féminisme, comme vous savez, c'est aussi sur les questions de racisme et tout ça. S'il y a une chose dont je peux dire que je souffre aujourd'hui, et pas simplement moi, mais beaucoup de gens de ma génération qui avons cru à certaines valeurs d'ouverture d'esprit, de tolérance, etc., c'est de voir que tout ça est en train d'être balayé.
Pardon, mais quand je fais le lien avec le viol, vous dites que c'est un raccourci, mais vous avez dit des phrases sur le viol, je peux pas ne pas vous en parler. Quand vous dites « je ne comprends pas les femmes qui souffrent d'avoir été violées » ou « je regrette beaucoup de ne pas avoir été violée parce que je pourrais témoigner que du viol on s'en sort », à ce moment-là, est-ce qu'au moins ces phrases-là, vous les regrettez sur le viol ?
Non, peut-être ce que je peux dire, c'est qu'on m'a mal comprise, parce que peut-être je me suis mal exprimée, mais sur cette question du viol, moi, ma conviction, c'est que, de toute façon, la personne humaine, elle a un corps et elle a ce qu'on appelait auparavant une âme ou un esprit ou une conscience. Et que si on abîme votre corps et qu'on le prend par violence, ça n'abîme pas votre âme, ça n'abîme pas votre esprit, et que vous devez... Pourquoi elles se sentent salies? Parce que c'est comme si elles étaient coupables. Non, elles doivent trouver en elles, dans leur conscience, si elles n'étaient pas consentantes, elles n'ont aucune complicité. Vous voyez, je crois qu'en fait, c'est une sorte de résidu de cette idée où on pensait que, de toute façon, une femme qui avait été violée, elle avait été d'une certaine façon complice, ou que c'est elle qui avait fait la démarche d'aguicher son violeur. Bon. Et je pense que c'est un résidu de ça qui fait que des femmes restent, en effet, dans leur esprit, prisonnières.
Parfois, c'est juste qu'elles ne peuvent pas faire autrement et que leur âme est salie.
Qu'est-ce que vous voulez que... Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas médecin.
J'entends bien.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre que essayez de vous en sortir et prenez exemple sur des femmes qui ont subi le même traumatisme que vous et qui, elles, s'en sont sorties. Voilà.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Votre enfance dure dans une atmosphère de drame permanent. Dites-vous, votre frère mourra jeune d'un accident de voiture. Vos parents ne s'aimaient pas, faisaient chambre à part. Votre mère, vous parlez de ses amants. Quelle mère était-elle? Et qu'est-ce que vous avez d'elle?
C'est une femme qui a souffert. Elle a fini par se suicider. Ce que je garde d'elle comme image, c'est une femme qui se débattait pour essayer quand même de vivre avec les difficultés conjugales qu'elle rencontrait, les difficultés financières, mais qui essayait quand même de faire les choses bien, vous voyez, de bien élever ses enfants. Elle s'est débattue.
Et votre père, quel rôle a-t-il joué dans la femme que vous êtes?
L'image, je crois que c'était pas une image exacte, mais l'image que ma mère et sa mère m'ont donnée, c'était celle d'un libertin. C'était à l'époque, on disait un coureur de jupons. Je suis pas sûre qu'il était à ce point un coureur de jupons, mais c'était l'image qu'on m'en donnait. Alors peut-être que...
Les chiens ne font pas des chats.
Peut-être que... peut-être que ça m'a, orientée, je sais pas.
Vous n'avez pas eu d'enfant, Catherine Millet, par choix ou parce que c'est ainsi qu'est allée la vie?
Les deux.
Et aujourd'hui, c'est un regret ou pas du tout?
Non, c'est pas du tout. J'ai aucun regret. Déjà, j'ai tellement de mal à gérer toute ma vie professionnelle, etc., que si j'avais en plus la responsabilité d'un enfant, bon, à l'âge que j'ai, il pourrait se débrouiller tout seul maintenant. Mais si j'avais eu ça en plus, je sais pas comment je m'en serais sortie.
Quelques questions de fin pour terminer. Vous répondez rapidement ce que vous voulez, spontanément. Liberté, égalité ou fraternité, vous préférez lequel?
C'est quand même assez lié, hein. J'aurais envie de dire liberté, mais la liberté, il faut que le respect de l'égalité puisse quand même lui donner des limites. Fraternité, j'aurais pas ce mot-là, on disait empathie tout à l'heure, oui.
Empathie. Si vous n'aviez pas écrit, vous auriez fait quoi comme métier ?
C'était impossible que j'écrive pas. J'ai même pas tenté autre chose.
L'Académie française, vous aimeriez ?
Sûrement pas, justement, je pense que l'Académie française, ça doit être tellement formel, leurs réunions et tout ça. Moi, je ne pourrais pas supporter ça.
Sade ou Casanova?
Ah, Casanova.
Parce que?
Oh bah quand même.
C'est plus heureux.
C'est plus gai.
André Malraux ou Jack Lang comme ministre de la Culture?
Comme ministre, peut-être Jack Lang. Mais comme écrivain, il vaut mieux Malraux.
Daniel Mitterrand ou Brigitte Macron?
Ni l'une ni l'autre, s'il vous plaît.
Pour vivre heureux, vivons cachés, vous êtes d'accord?
C'est raté.
Bah oui, pour vous, c'est raté. De gauche, de droite ne se prononce pas?
Je me suis jamais posé la question d'être de droite ou de gauche.
Alcool, drogue, vous avez des vices? Vous fumez?
Non, aucun vice.
À part le sexe, mais vous allez me dire que c'est pas un vice.
C'est pas un vice.
Vous avez beaucoup menti dans cet entretien?
Non, pas du tout. Non, je crois pas que j'ai menti.
Et Dieu dans tout ça, finalement?
Je vous en ai parlé au début.
Oui, aujourd'hui. Vous avez dit que ça avait évolué.
Et oui, aujourd'hui, je continue à avoir des petits fétiches, comme vous voyez.
Oui, vous avez une croix
jolie. J'ai toute une collection de croix en pendentif. Je pense que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui. C'est même un enjeu dans notre société, alors qu'on croyait que ça ne serait plus jamais. Bon, voilà.
Merci Catherine Millet.
Merci à vous.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. Me capturer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Avec délicatesse, en souplesse et doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste. Sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez-y. Sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. vous déshabillez-vous.
Déshabillez-moi de Juliette Gréco sur Inter. Cette émission était préparée par Alexandre Gilardi, Paola Puerari, Marie-Elisabeth Jacquet et Alexandra Brouillet. À la prise de son, Laurent Macchetti, à la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation, Hélène Biziot.